Radio Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, cartomancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. Un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Bonjour, c'est la rentrée pour Radio Tarot et je vais commencer par une émission d'analyse de cartes. Pour cela, j'ai choisi le 7 d'épée. C'est une carte dont j'avais envie de parler depuis assez longtemps et ce qui a fini par me décider, c'est la lecture du livre Babel de Rebecca Kuang. Et aussi parce que je trouve ça toujours intéressant de venir interroger notre rapport aux images, au monde dans lequel elles sont produites. Parce qu'en fait, le tarot, c'est un ensemble d'images qui infusent notre culture. Des archétypes qui permettent d'assembler des réponses. Et malgré une profusion de symboles, il y a forcément une réduction. Parce que pour choisir et agir, nous avons besoin de cette réduction. Mais sur quel principe se base-t-elle? Et comment est-ce qu'elle reproduit des choses auxquelles nous ne souhaitons pas participer? Alors d'abord, je vous présente la carte. La première fois qu'on l'a vue apparaître, c'est sous le crayon de Pamela Conman-Smith dans le tarot Rider-Waite, sorti en 1909. Alors cette carte est dite mineure, elle appartient à une famille, celle des épées. Sur cette carte est représenté un décor, des personnages et des objets. Concernant le décor, il est assez aride, et on peut y voir des tentes militaires. En arrière-fond, plusieurs personnes, dont on distingue peu la silhouette, sont assises en cercle, peut-être autour d'un repas. Au premier plan, un personnage, sur la pointe des pieds, comme en catimini, part avec 5 épées dans les bras. Il les tient d'une manière peu commune, 2 dans sa main droite, tenues par la lame, et 3 comme en berceau, dans sa main gauche, comme si la carte l'avait pris sur l'acte. Bien que ses pieds le dirigent loin des tentes, son regard est tourné vers 2 épées qui restent. C'est plutôt rare d'avoir des personnes qui sont en mouvement à pied. Dans le tarot, la représentation du mouvement est représentée par le cheval. Le personnage central est vêtu sobrement et il porte un chapeau. Un homme qu'on ne connaît pas, avec le cheveu frisé, le visage anguleux, un peu tordu, qui, sur la pointe des pieds, sans se faire remarquer, prend des choses qui ne lui appartiennent pas. Les images, les symboles, viennent se rattacher à un imaginaire. Et même si le tarot du Rider-Waite-Smith est projeté dans un imaginaire de royauté qui n'existe plus à cette période, les représentations qui sont portées sont aussi issues d'une époque. Et il est important de rappeler que cette époque est aussi celle de la montée de l'antisémitisme, de la fabrication d'un autre, différent, qu'on va rendre responsable de ce qui nous arrive. Quelqu'un qui vient nous voler nos biens. J'en parle maintenant parce que la question de la construction d'un ennemi intérieur, de cette figure de qui vole, qui commet ces petits délits, est une question de grande actualité. On a pu le voir récemment, le jugement de la délinquance est aussi un jugement de classe. Parce qu'il est très clair que ce personnage sur cette carte n'a pas un col blanc. Quand cette carte sort dans un tirage, les mots qui viennent sont mensonge, trahison, quoique un peu plus avec le 3 d'épée que le 7 d'épée. Mais... Et c'est souvent lu comme une personne extérieure qui nous voudrait du mal, qui entacherait notre réputation, qui créerait du conflit sans qu'on le sache vraiment pour obtenir quelque chose que nous avons. Dans le tarot, chaque famille représente un élément de notre vie. Et même si cette carte du 7 épées semble parfaitement représenter le vol, les épées nous parlent d'autre chose. Elles nous parlent des mots, elles nous parlent des concepts, elles nous parlent des pensées. Donc ici, ce ne sont pas des biens qui sont dérobés. Cette émission, donc, elle va s'attacher aux enjeux de comment est-ce qu'on représente qu'est-ce qui nous nuit. Quel est notre rapport de jugement sur les mensonges et sur les secrets? Je pense qu'il est important d'avoir des cartes qui nous rappellent qu'il peut y avoir des mauvaises intentions derrière certains mots, derrière certains discours. Parce qu'on peut faire très mal avec des mots, ils peuvent être tranchants. C'est un thème qui est complexe, qui nous concerne nous-mêmes. Par exemple, il y a des mensonges qui sont tout à fait acceptés. Le « fake it until you make it », où nous considérons qu'il est adapté de faire comme si on savait le faire. Parce que c'est ça qui permet d'y arriver. Cet auto-mensonge, plutôt bien promu pour pouvoir aller de l'avant, n'est pas jugé comme un manque d'authenticité. Il y a aussi le mensonge dans nos liens inter-individuels. Et puis, il y a le mensonge à un niveau plus large, à un niveau politique ou systémique. C'est tout ça que j'ai envie d'aborder dans cette émission sur le 7 d'épée. Parler du mensonge, c'est aussi parler du devoir de transparence. Souvent, on dit qu'on n'a rien à cacher. Mais ça, ça dépend complètement du contexte. Moi, j'ai appris le tarot avec le Wild Unknown. Et dans ce jeu, la carte du 7 d'épée est représentée par un renard lové sur des épées qui nous regarde de face avec un œil ouvert et un œil fermé. Le renard est un trickster. C'est un animal qui arrive toujours à ses fins, notamment par la ruse. Et parfois, c'est les poules. Il y a derrière des symboles un imaginaire qui peut avoir un réel impact sur les catégories qu'on représente. Par exemple, même si c'est encore en débat, la dimension de nuisible de certaines populations des forêts, comme le renard, a un réel impact sur la continuité de son existence à nos côtés. Je trouve que cette manière de représenter la carte parle plutôt du secret, comme si nous avions, par notre regard, réveillé ce renard qui couve des épées. Alors assez vite, ce que le 7 d'épée a représenté pour moi, c'est le secret. Et plus particulièrement dans mon histoire intime, c'est la question du coming out. À qui est-ce qu'on dit qui on aime? Qui est obligé de faire son coming out? Qui n'est pas obligé? Et dans cette question, il y en a une encore plus injuste, qui est celle des demandes de papier pour cause de persécution liée à son orientation sexuelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé de comment est-ce qu'on obtenait le droit à l'asile, et en particulier pour une question d'orientation sexuelle. Alors moi, je l'ai fait, j'ai interviewé des personnes là-dessus, et c'est assez problématique. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a vécu des choses très, très dures, qui en arrivant en France, doit raconter non seulement les traumas, non seulement les pertes, non seulement les difficultés, mais qui aussi doit expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'est cachée. Qui passe d'un espace avec un risque pour sa vie, un endroit où elle doit revendiquer. Et c'est à ces conditions-là qu'elle pourra avoir l'asile. Les dossiers d'asile sont lus par des personnes qui ne sont pas forcément concernées par les questions LGBT, qui n'ont pas vécu de coming out et qui n'ont certainement pas dû le faire dans un espace où c'était risqué. C'est-à-dire que pour les personnes qui demandent de l'asile, on passe de « c'est un secret qu'il ne faut dire à personne » sous faute de risquer sa vie, sa famille, son travail, à « maintenant sois fier, revendique-le » avec tout ce qui a pu se passer dans son pays, sur la route d'exil, etc. Alors pour moi, le 7 d'épée, il parle aussi de ça. Il parle du secret, des choses qu'on dit, dans quel contexte. Et il vient interroger parce qu'en fait, la question de la parole et du secret a un contexte, À qui est-ce qu'on dit quoi ? Quel est le risque qu'on prend ? Comment est fabriqué ce qu'on considère être l'international de ce qui est une personne LGBT ? Et comment c'est à partir de cet imaginaire qu'on choisit si une personne a le droit d'être protégée ou non ? Alors oui, il existe des contextes d'énonciation où nous souhaitons garder des secrets, où nous considérons que qui nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, ne concerne pas d'autres personnes, qu'il y a même peut-être un risque à le révéler. Je tiens à rappeler que faire son coming out, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est quelque chose qu'on fait comme on veut, quand on se le sent. Outer une personne, dire à sa place ce qu'elle aurait envie de dire et lui enlever la possibilité de choisir quand et comment elle informe, ce n'est pas quelque chose à faire. Alors la première fois que j'ai cherché quelle serait mon interprétation du 7 d'épée, c'était celle-ci. Qu'est-ce que je dis à qui et quel est le risque ? Une autre interprétation de cette carte que j'aime assez bien me vient de ma professeure, Lindsay Mack, et elle va plutôt s'intéresser à la question de la tension dans le corps du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu marches avec des objets tranchants dans les mains, sur la pointe des pieds, tout en regardant par derrière, il y a vraiment des risques de se casser la gueule. Du coup, cette carte peut aussi inviter à se dire « Je suis en train de regarder ce qui se passe pour d'autres, là. Je ferais mieux d'être dans l'attention à mes gestes, à mes mots, plutôt que de voir qu'est-ce que je n'ai pas. » Et j'aime bien cette interprétation, cette idée d'avoir la tête et le corps dans le même axe, parce que je peux remarquer au quotidien que quand ce n'est pas le cas, je brise plus de choses que je n'en crée. Si une carte de tarot est un instantané, si on ne sait pas quel est le contexte qu'il y a avant, qu'il y aura après, qu'est-ce qui nous permet de juger que ceci est de la tromperie, que ceci est du mensonge, qu'on souhaite nous enlever quelque chose ? Si on en revient à la carte et qu'on considère que les épées sont des mots, des concepts, peut-être même des manières de faire et de produire de la pensée. Est-ce que le personnage avec lequel on empathise peu, et nous reviendrons plus tard autour de pourquoi c'est le cas, n'est pas en train de venir nourrir une rébellion, de prendre des mots qui sont des armes pour les distribuer à d'autres ? Le pillage des ressources, de la force de travail, du patrimoine historique n'est pas décrit avec les mêmes mots en fonction des contextes. Pourtant, la colonisation et le néocolonialisme a un impact sur le niveau de richesse, de considération des pays. Et tout ça s'associe à un discours. En introduction, je vous ai parlé d'un roman. Il s'agit de Babel, de Rebecca F. Kuang. Babel est un roman de Dark Academia qui se déroule à l'université d'Oxford en 1828. On y suit un personnage, orphelin chinois recueilli depuis Canton par un professeur et conduit à Londres. Il rentre à Babel, la tour de traduction. Babel est la seule partie de l'université qui accueille des enfants des pays colonisés par l'Angleterre. C'est un roman d'aventure, d'amitié, de lutte, avec des notes de bas de page extrêmement drôles, de réflexions profondes sur le colonialisme, sur l'importance de la connaissance des langues et sur le fait, comme c'est inscrit dans l'ouverture du livre, que la traduction est toujours une trahison. Le principe magique est assez simple dans ce roman. En inscrivant sur une barre d'argent un mot et sa traduction, on peut matérialiser alors ce qui sépare les deux mots, le sens perdu. Et ce qui m'a fait réfléchir aux 7 d'épée, c'est cette question du colonialisme qui est qui vole qui ? Quelles sont les ressources, les langues qui sont pillées, qui sont niées dans leur complexité, dans leur existence ? Cette représentation d'une personne qui va seule nous voler, alors que s'il fallait faire les comptes et réparer, la balance serait vraiment du côté des personnes colonisées. On y voit des personnages qui collent ou pas avec l'imaginaire qu'il peut y avoir sur eux. Comment est-ce que dans cette vision étriquée, eurocentrée, il y a du jeu, il y a des possibilités pour être ce qu'on veut, pour parfois obtenir des choses en collant avec l'imaginaire qu'on a sur notre groupe social. Appartenir à un groupe discriminé, souvent, veut dire qu'il existe un imaginaire sur qui nous sommes, avec lequel nous devons composer. Et se glisse là-dedans un enjeu stratégique, à quel moment on s'en joue, à quel moment on le refuse, et comment, en le refusant, nous ne perdons pas les comparses qui vivent le même sort que nous. Je crois qu'il y a un peu cette question-là dans le 7DP. Celui de l'imaginaire créé sur notre groupe social, on compose. On le fait de manière individuelle ou collective. Je suis fatiguée de la reproduction de l'autre, le voleur, quand la carte est tirée. J'aurais envie de nous inviter à faire quelque chose d'un peu plus riche. D'autant que ça me semble réellement important en ce moment, parce que la question de la construction de l'ennemi intérieur est très présente avec la montée du fascisme. S'il s'agit de parler de mensonges, est-ce que nous ne pourrions pas plutôt interroger les personnes qui sont bien installées dans leur pouvoir, celles qui reproduisent des imaginaires ou celles qui mentent et ont aimant, qui contredisent le réel, qui ne le font pas en s'en cachant sur la pointe des pieds, mais comme un principe de base, et notamment un principe de base de gouvernance. Dans le contexte actuel où le mensonge est devenu, aux États-Unis et en France, une manière de gouverner, alors voilà, c'est tout ça que m'évoque cette carte. C'est tout ça que j'aimerais qu'on vienne intégrer à nos lectures, qu'on vienne interroger sur notre rapport à l'imagerie, qu'on puisse la représenter non pas comme un autre, mais qu'on puisse venir clarifier quels sont les rapports d'emprise, quels sont les rapports de domination qu'on pourrait intégrer à notre réflexion sur le mensonge, sur la déloyauté, les dimensions de justice sociale, les dimensions de jugement sur la délinquance de qui est vu et comment. Parce que oui, le mensonge a un impact. Il vient créer un sentiment de déréalité, nous faire douter de la véracité des choses. Et même s'il est extrêmement douloureux dans la sphère intime, même s'il peut mettre fin à des liens, il a un impact d'autant plus fort quand il est énoncé par des personnes qui sont tranquillement assises au pouvoir. Des personnes qui peuvent continuer de créer des imaginaires d'ennemis communs à partir de représentations qui sont certes présentes, mais qu'il reste à nous de venir interroger. Parce que s'il faut parler d'un risque actuellement, de personnes qui mentent, qui fraudent, qui impactent notre sentiment de réalité, qui impactent notre qualité de vie, ce n'est pas vers l'ennemi commun désigné qu'il faut se présenter, mais c'est vers les personnes qui reproduisent cet imaginaire raciste d'essentialisation de la fourberie. Une image a un contexte de production, et c'est à nous, en tant que personnes qui interprétons cette image, de venir les interroger. J'espère que vous avez apprécié l'écoute. Encore une fois, cet épisode n'était pas forcément très facile à enregistrer, mais je suis contente de l'avoir fait. À bientôt. Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram @atropia. Merci pour votre écoute.